au chapitre 38. Et avant de lire la parole de Dieu, je vous invite avec moi à prier. Seigneur, nous te reconnaissons comme notre Dieu et roi, Seigneur et sauveur, guide et maître. Et nous t'autorisons, nous te demandons, nous nous soumettons à toi pour que tu façonnes nos cœurs et nos pensées par ton esprit, parce que nous pensons que tu as la vérité, tu es la vérité, le chemin et la vie. Alors dans ce temps de prédication, Seigneur, nous nous plaçons devant toi comme une argile souple dans tes mains. Amen. Dimanche dernier, j'avais commencé une série de prédications sur le thème de la crainte de Dieu. Et je vous rappelle que ce n'est pas une crainte de Dieu où j'ai envie que vous ayez peur et que vous trembliez et frémissiez à l'idée que Dieu puisse sonder jusqu'au tréfonds de votre cœur. Mais au contraire, une thématique où en fait, la crainte de Dieu serait de retrouver un certain sens, une certaine perception, une conscience plus juste de qui nous avons affaire en face de nous. Le texte que j'avais lu dans le Deutéronome au chapitre 11, je trouve aborder trois facettes de cette crainte de Dieu que j'ai envie de développer en trois prédications, et ça va être la première aujourd'hui. Et ces trois thèmes sont Dieu le Créateur, Dieu le Père et Dieu le Roi, voilà, quelque part. Et donc j'ai envie de parcourir ces trois facettes, donc ça sera ce dimanche-là, puis en août, parce que je vais partir ensuite un peu en vacances. Alors remarque, on aura le 27 aussi. Pour essayer, non pas encore une fois, de nous replacer dans une espèce de peur de Dieu, mais bien de crainte révérencieuse. Alors le texte qu'on va lire se trouve dans le livre de Job. Vous connaissez l'histoire de Job pour la plupart d'entre vous. C'était un homme bien, on va dire. Un homme bien, un homme riche. Un homme qui avait réussi dans la vie. Il avait de l'argent, il avait des biens, des ouvriers, il avait une famille, il était stable. Et dans tout ce qu'il faisait, il pensait beaucoup, beaucoup à Dieu. Et il pratiquait ses offrandes et ses sacrifices avec la régularité d'un métronome. Et voilà qu'un jour, il perd tout. Mais quand je dis tout, la seule chose qu'il garde, c'est sa femme qui lui râle dessus en lui disant « Renie ton Dieu et meurs !» Un peu amer. Et Job ne le fera pas. Il ne reniera pas de son Dieu. Ça veut dire, renier Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire ben, « Il n'y a plus rien entre toi et moi, je ne veux plus de toi comme mon Dieu. J'en veux un autre. » C'est un peu comme un divorce, si vous voulez. Job ne le fera pas. Et le livre de Job raconte un peu comment les amis de Job, amis entre guillemets en fait, sont venus essayer de le convaincre que s'il lui était arrivé autant de malheurs, c'est qu'il avait forcément grandement péché. Parce qu'il n'y a que les pécheurs à qui il arrive du malheur et pas les gens bien, disent-ils. Or, vous savez comme moi que c'est faux. Le malheur ne frappe pas que les pécheurs. Et dans tout ce livre, Job va défendre sa justice et son innocence. Jusqu'au jour où il va, quelque part, maudire le jour de sa naissance. Et c'est une façon pour lui de provoquer Dieu. De provoquer Dieu à venir répondre. Et au chapitre 38, justement, Dieu vient répondre à Job et on va lire le début de sa réponse. C'est-à-dire que nous allons lire du verset 1 jusqu'au verset 12. Je vous dirai. C'est parti. L'Éternel répondit à Job au milieu de la tempête et dit, je fais la voix de Dieu, « Qui est celui qui obscurcit mes desseins ?» par des propos dénués de connaissances. Mets une ceinture à tes reins comme un vaillant homme. Je t'interrogerai, moi, et tu me répondras. Alors, Où étais-tu quand je fondais la terre? Déclare-le, si tu le sais avec ton intelligence. Qui en a fixé les mesures? Le sais-tu? Ou qui a étendu sur elle le cordeau? Dans quoi ces bases sont-elles enfoncées? Ou qui en a posé la pierre angulaire? Alors qu'ensemble, les étoiles du matin éclataient en chants de triomphe et que tous les fils de Dieu lançaient des acclamations, qui a fermé la mer avec des portes quand elle s'élançait sortie du sein maternel? Quand je fis la nuée et son vêtement et quand et de l'obscurité ses langes? Quand je lui fixais mes prescriptions et quand je lui mis des verrous et des portes, quand je disais, tu viendras jusqu'ici et tu ne t'arrêteras, tu n'iras pas au-delà. Ici s'arrêtera l'orgueil de tes flots. Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? As-tu fait connaître sa place à l'aurore pour qu'elle saisisse les bords de la terre et que les méchants en soient secoués? Tout se transforme alors comme l'argile qui reçoit une empreinte et se présente comme parée d'un vêtement. Mais les méchants sont privés de leur lumière et le bras qui se lève est brisé. Es-tu parvenu jusqu'aux sources de la mer? T'es-tu promené dans les profondeurs de l'abîme? Les portes de la mort t'ont-elles été dévoilées? As-tu vu les portes de l'ombre de la mort? As-tu considéré l'immensité de la terre? Déclare-le, si tu sais les choses. Où est le chemin qui conduit à la lumière? Et les ténèbres, où est leur emplacement? Pour que tu puisses les saisir à leurs limites et comprendre le sentier de leur habitation. Tu le sais? Alors t'étais né, et l'ombre de tes jours est bien grand, hein? Es-tu parvenu jusqu'aux réserves de neige? As-tu vu les réserves de grêle que j'ai mises de côté pour les temps de détresse, pour un jour de bataille et de guerre? Où est le chemin par où la lumière se divise et par où le vent d'Orient se répand sur la terre? Qui a ouvert un passage aux averses et tracé un chemin pour l'éclair et le tonnerre, pour faire pleuvoir sur une terre sans homme, sur un désert où il n'y a pas d'être humain, pour abreuver des lieux dévastés et ravagés et faire germer de l'herbe? La pluie a-t-elle un père? Qui a fait naître les gouttes de rosée? Dans quel sein maternel est sortie la glace? Et qui a enfanté le givre du ciel? Les eaux s'immobilisent comme de la pierre et la surface de l'abîme se prend. Peux-tu nouer les liens des Pléiades ou dénouer les cordages d'Orion? Fais-tu apparaître en leur temps les constellations? Conduis-tu la grande ours et ses petits? Connais-tu les lois du ciel? Fais-tu attention à la terre et à son organisation? Élèves-tu ta voix jusqu'aux nuages pour que des torrents d'eau te recouvrent? Envoies-tu les éclairs pour qu'ils partent? Te disent-ils, nous voici. Qui a mis la sagesse dans le secret du cœur? Ou qui a donné de l'intelligence à l'esprit? Qui peut avec sagesse compter les nuages et incliner les outres du ciel pour que la poussière se fige et que les mottes de terre se collent ensemble? Je m'arrête là. Dieu arrive face à un Job en colère qui dit « Mon sort est injuste et je ne comprends pas pourquoi tu te comportes comme ça envers moi. » Je crois qu'on est beaucoup à faire le même constat que Job, si on est honnête. Dieu, tu es tout puissant, tu claques des doigts et la chose arrive. Tu parles et ce que tu viens de dire devient la vérité. Tu dirais « Tiens, aujourd'hui, il y a la paix sur la terre, que plus personne ne se battrait sur terre. » Et on se dit, mais pourquoi tu le fais pas? Si moi j'étais tout puissant à ta place, avec des pouvoirs cosmiques aussi balèzes, j'aurais réglé tous les problèmes du monde bien vite. Et quand Dieu vient voir Job, eh bien il le confronte à ça. Est-ce que tu as compris, Job, tout ce qui se passe dans le monde? Est-ce que tu as compris? Depuis la formation du cosmos, la lumière, l'organisation des étoiles, comment la grêle se forme, comment la foudre se forme, pourquoi elle descend par tel chemin et pas un autre, Pourquoi elle frappe ici et pas là? Dieu inonde Job de questions qui, pour son temps, sont insolubles, n'ont pas de réponse. À l'époque de Job, on ne savait pas comment se formait la grêle, ni les orages, ni les tornades, ni la neige. À l'époque de Job, on n'avait pas des super calculateurs, des ordinateurs extrêmement puissants pour anticiper les prévisions météorologiques. À l'époque de Job, on n'avait pas des super télescopes pour observer l'espace, les galaxies les plus lointaines. Et donc Dieu noie Job de toutes ces questions en disant « Est-ce que tu peux me répondre à ces questions-là avant que j'aborde avec toi la question du mal et de la souffrance ?» Et Job dira « Non, je ne peux pas. » Alors Dieu dira « Laisse-moi être Dieu et laisse-toi être une créature humaine. » Et c'est vrai que nous, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses que Dieu évoque dans ce poème auxquelles nous avons des réponses. On sait comment se fabrique un éclair. On sait comment se fabrique la grêle. On comprend l'espace, on observe les étoiles, on trouve même des planètes lointaines. Beaucoup de ces choses ont trouvé des explications grâce à notre technologie et à notre science. Et peut-être d'ailleurs est-ce là, non pas mal, parce que à travers ces découvertes scientifiques, nous pratiquons, nous vivons ce que nous sommes, c'est-à-dire être image de Dieu. Et nous explorons, et nous nommons, nous classons, nous rangeons ce monde comme Dieu, dans les 6 jours de la création, a rangé et classé ce monde. Nous perpétuons le travail de Dieu. Mais certains diront, nous n'avons plus besoin de Dieu pour donner du sens au monde. Et en un sens, on les comprend. Effectivement, nous n'avons plus besoin d'un Dieu pour expliquer des grands phénomènes inexpliqués qui se passeraient autour de nous, puisque tous les phénomènes qui se passent autour de nous, nous les avons expliqués. Résistent encore aujourd'hui à la science les 2 grandes questions. Pourquoi l'univers existe ? Et en plus, pourquoi dans cet univers y a-t-il la vie ? Pourquoi dans cet univers y a-t-il la vie ? Personne, encore aujourd'hui, ne peut répondre à ces questions. Plus encore, dans ce mystère de la vie, nous voyons bien tous que la vie est donnée, transmise, mais qu'elle ne peut pas être créée. Et nous voyons tous que quand la vie est reprise, elle ne peut pas être redonnée. Nous ne pouvons pas ranimer un mort et nous ne pouvons pas amener à la vie une chose qui n'en a pas. Il y a là un mystère qui nous dépasse et qui nous renvoie à Dieu. Mais nous autres, je dirais, les Occidentaux du XXIe siècle, on est quand même bien détachés de la nature. Et en fait, on aime bien se détacher de la nature. On aime bien perpétuer notre confort et nos habitudes de vie de manière autonome. Nous, on mange des tomates en hiver et des framboises. En hiver, parce qu'on en a envie. Et on crée des moyens de stocker, de produire des choses, de faire produire des choses à la nature, même en dehors de sa saison, en dehors de son cycle. Pourtant, lorsque nous lisons le récit de la création, Dieu a créé l'homme et la femme à partir de la poussière du sol, de la terre. Non, les hommes. Mesdames, vous ne venez pas du sol, vous venez de nous, mais c'est quand même la même patte. On vient du sol, de la terre. Littéralement, l'homme, Adama, c'est un terrien. Un terrien, au sens l'habitant de la terre. issus de la terre, nous sommes connectés à la terre. Et à ce titre, nous ferions bien de nous rappeler que nous sommes des créatures. Des créatures complètement faisant partie de la création. Quand j'étais étudiant en collège, on brandissait comme, entre guillemets, preuve que l'homme n'est pas une créature divine, mais un animal, que nous partagions 80 ou je ne sais plus combien pour cent d'ADN commun avec tel ou tel animal. Comme si cela prouvait quelque chose. Pour moi, au contraire, cela signifie que la création tout entière est liée et est issue de la même main, du même créateur qui a pensé son design comme une série peut-être. Et au bout de cette série, il y a l'être humain, mais qui fait intégralement partie de cette série. Nous sommes connectés à la nature, dépendants de la nature. Nous partageons un héritage, oui, une filiation commune avec tous les mammifères, avec tout le vivant même de la Terre. Et c'est pas pour rien. Mais peut-être que dans les dernières décennies, les derniers siècles, nous tentons de nous en affranchir, de nous en libérer, comme si nous pouvions être plus heureux si nous vivions loin de cette création. Pourtant, je crois que de retrouver le sens d'être des créatures, et si on dit créature, c'est qu'il y a créateur, ne peut que enrichir, renforcer, approfondir le sens de nos vies. Alors c'est vrai, les Hébreux priaient le Dieu du ciel et de la terre, ils étaient dépendants de la bénédiction, de la pluie, de l'arrière-saison et de la pluie du printemps pour que leur récolte soit abondante. Mais je ne pense pas qu'il y en ait un d'entre vous qui ait prié récemment Dieu pour qu'il pleuve afin que les récoltes soient abondantes, parce que vous ne reliez pas dans votre tête, et moi non plus, le fait que le frigo soit plein et le fait qu'il pleuve. Vous ne reliez pas la fécondité des troupeaux de taureaux de Camargue avec le fait que votre frigo soit plein. Nous n'avons pas recours à notre Dieu comme ce Dieu créateur qui gère et prend soin de la nature. Autrefois, oui. Aujourd'hui, on pleut, on prie pour la pluie pour qu'il fasse moins chaud. Mais pas pour que les récoltes poussent. Peut-être certains d'entre nous ont des vergers, des oliviers, mais tous, non, peut-être pas. Pourtant, retrouver ce sens-là, je suis une créature, œuvre des mains d'un créateur, ne peut que renforcer la profondeur et la beauté de notre vie. Et je vous donne, pour une raison très simple en fait, c'est que ce monde a été créé avec une direction. Il y a un chemin tracé dans ce monde. Un chemin tracé dans ce monde. Je vous donne deux idées, pour y en avoir plus, mais deux idées qui montrent qu'il y a un chemin tracé dans ce monde. Une des choses les plus instables autour de nous, c'est le bonheur. Pourtant, même si le bonheur est très instable, c'est quelque chose que l'on poursuit ardemment. Nous travaillons, nous choisissons, nous calculons, nous anticipons, nous prévoyons, nous agissons pour maintenir, parvenir, construire, stabiliser un bonheur. Une paix, une joie, un sentiment de partage, un sentiment de satisfaction d'être comblé. Pourtant, si vous regardez autour de vous, c'est quelque chose qui ne dure pas, qui n'est instable. Pourquoi aurions-nous en nous ce désir farouche, cette poursuite perpétuelle de bonheur, alors que c'est quelque chose qui n'est pas stable, qui ne dure pas? D'où vient ce sens, ce besoin vital? Je dis vital. Malheureusement, les personnes qui mettent fin à leur jour, qui se suicident, le font souvent parce qu'elles n'ont plus aucune perspective de bonheur devant elles. Quand plus rien dans la vie ne semble permettre, garantir, entrouvrir une perspective qu'il va y avoir à nouveau du bonheur devant moi, la vie perd son sens complet. Mais d'où vient en nous ce besoin-là, si c'est une chose aussi éphémère sur Terre, ou fragile? Première question de sens. Nous marchons, nous agissons, nous pensons, nous nous organisons par rapport à ce bonheur. Alors que si nous regardons ce monde d'un point de vue scientifique, il n'est pas fait pour ça. Une deuxième chose qui trace un chemin dans nos vies, à tous, chrétiens ou non chrétiens, c'est la beauté. Ce monde est beau. Et ça, c'est universel aussi. Vous prenez n'importe quelle personne de n'importe quel pays, de n'importe quelle culture, et vous le calez tranquillement devant un coucher de soleil. C'est beau. Vous l'amenez à prendre le temps à contempler une fleur, à admirer un vol d'oiseau, à plonger les pieds dans une source fraîche et à écouter le clapotis de la cascade au soleil. Ce monde est rempli, rempli de beauté. Mais qui voit la beauté à part vous et moi? Qui voit la beauté à part l'humain? Qui a déjà vu un chien se caler et regarder un coucher de soleil? Qui a déjà vu un cheval s'arrêter pour respirer le parfum d'une fleur? Qui a déjà vu un être vivant en dehors de nous, les humains, profiter de la beauté ou de la saveur de la nature? Alors oui, mon chat préfère les croquettes au bœuf par rapport aux croquettes au saumon, c'est vrai. Mais il ne saurait aller plus loin que ça. Nous, nous fabriquons des whiskies que nous laissons mûrir pendant 15 ans pour pouvoir les déguster à la fin et en apprécier toute une complexité de goût et de parfum. Il y a une beauté dans ce monde, il y a une beauté dans la création que nous ne touchons pas. Nous ne savons pas faire une montagne aussi belle que ça. Des fois, c'est marrant, les humains essayent de planter de la végétation à la manière de la nature. Il faut que ce soit aléatoire. Mais on voit que c'est pas bien. Il n'y a que la nature qui sait planter des choses à sa manière à elle. Et c'est toujours beau. Vous n'avez jamais dit « Oh tiens, cette montagne, elle est un peu trop penchée. » Ou « Ah tiens, cet arbre... » Non, la nature, elle est belle. Et nous, quand on voit cette création belle, riche, profonde, eh bien, on est attiré vers la beauté, on copie la beauté, on exprime la beauté, on loue la beauté, on chante la beauté, on reproduit la beauté. Nous choisissons des agencements de couleurs pour nos vêtements, nous choisissons de construire nos maisons d'une certaine façon, nous enrichissons nos maisons avec des ornements de fleurs, de couleurs, de plantes. Nous sommes attirés vers la beauté. Nous jouons sur les lumières qui éclairent à l'intérieur des bâtiments. Nous peignons, nous sculptons, nous chantons, nous écrivons, nous décrivons la beauté. Et elle remplit nos vies. Mais d'où vient-elle? Quelle est l'utilité que la lumière du soleil, quand elle se couche, soit belle? Il y a du sens, il y a des chemins qui existent, des chemins anciens, que tout l'athéisme du monde ne pourra pas décrotter. Ils sont inscrits dans la nature, et ils sont inscrits en nous, et ils disent que ce monde a un sens. Et que nous croyons en Dieu ou pas, vous verrez autour de vous des gens qui croient ou pas, qui marcheront sur ces chemins, poursuivant le bonheur, poursuivant la paix, poursuivant la beauté. Qui croit ou pas, parce que c'est inscrit en nous. Nous sommes des créatures d'un créateur. Et ce créateur, il a fait un monde qui va quelque part. Et nous qui sommes dans ce monde, mécaniquement, un petit peu, inconsciemment, nous allons vers ce quelque part. Alors Job est là, face à ce Dieu qui a créé le monde, face à ce Dieu créateur, qui fait que ce matin vous êtes levé et que ce souffle de vie était encore attaché à votre corps. Pourquoi il ne s'est pas séparé cette nuit ? Parce que Dieu le veut. Pourquoi les fleurs poussent ? Parce que Dieu le veut. Pourquoi les nuages courent dans le ciel ? Parce que Dieu le veut. On est face à un Dieu créateur qui conduit toutes choses. J'aime bien dans le texte de Job, il parle aux éclairs. Les éclairs viennent le voir et disent « Oui, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse pour toi ?» Bien sûr, c'est de la poésie. Les éclairs ne parlent pas. C'est une façon de montrer à quel point la nature lui est soumise. J'avais peut-être prêché sur ce texte aussi où un jour, les Philistins, les ennemis du peuple d'Israël, avaient capturé l'Arche de l'Alliance. Et ils l'avaient mise dans leur temple avec leur dieu Dagon. Ils se sont dit, ben, on met les dieux ensemble, ils seront copains. Sauf que le lendemain matin, la statue en pierre de Dagon était tombée par terre devant l'Arche de l'Alliance, comme pour se prosterner. Alors les Philistins ont remis leur dieu debout quand même, parce que c'était honteux. Puis le lendemain, elle était à nouveau tombée par terre devant l'Arche de l'Éternel. Sauf que cette fois, elle avait la tête et les bras brisés. C'est comme si la pierre qui avait été transformé en une idole, face à Dieu, rendait quand même gloire à Dieu. Elle retrouvait sa nature première de pierre. Je suis une créature, une création de Dieu, créée pour le glorifier. Et même si les humains m'habillent en faux Dieu, je rendrai gloire au vrai Dieu. Donc nous sommes complètement dépendants, soumis à ce Dieu créateur qui conduit toutes choses par sa volonté. Ça peut être rassurant ou ça peut être dérangeant. Ma vie appartient à Dieu. Parce que quoi ? Parce qu'il m'a, il est mon designer, il m'a fabriqué. Il y a marqué « Made in Heaven » derrière. Je ne m'appartiens pas. Il y a un numéro de série quelque part que je ne vois pas. Mais on n'aime pas forcément ce sentiment. Je n'ai pas demandé à être fabriqué, j'ai pas demandé à appartenir, j'ai pas le choix quelque part. Où est ma liberté là-dedans ? Si Dieu décide de me donner la vie ou de me la reprendre, qu'est-ce que j'ai à dire ? Je lui appartiens. J'existe parce qu'il le veut. Comment vous vous sentez par rapport à ça ? Ça dépend si mon propriétaire est gentil ou pas. Et là, Christ, pour nous, est une bonne nouvelle. Je vous lis le prologue de l'évangile de Jean. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Et la lumière brille dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Elle était dans le monde. Et le monde a été fait par elle, mais le monde ne l'a pas connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçue. Mais, à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, à ceux qui croient en son nom et qui sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté d'un humain, mais de Dieu. Nous sommes tous les créatures du Créateur. Et tous, même tous ceux qui sont à Vauvert et qui ne sont pas un dimanche matin au culte ou à l'église ou que sais-je, tous les humains de la planète sont les créatures du Créateur. Mais vous et moi, parce que nous avons reçu la parole qui est la vie, nous ne sommes pas que des créatures. Nous sommes les enfants de Dieu. D'un Dieu, Père, qui donne sa vie pour ses enfants. Donc vous êtes entre de bonnes mains. Et quelque part, oui, si Dieu est votre propriétaire, dans le sens où il possède, il tient votre vie dans ses mains, rassurez qu'il est aussi pour vous un père. Mais ça, on le verra un autre dimanche. J'arrive à la conclusion parce que le temps passe et que, à mon avis, elle est longue, cette prédication. Comment retrouver ce sens du Dieu créateur dans votre vie quotidienne? J'ai envie de vous dire trois choses. D'abord, réfléchir sur ce que ça veut dire, le titre. Tu es le créateur. On emploie des titres tout le temps dans notre vie. Quand je dis un titre, c'est pas un titre de livre, c'est un titre, un statut. Si on dit Monsieur le Président, c'est pas un prénom, c'est un titre. Si vous disiez le Christ, c'est pas un prénom, Jésus-Christ, c'est pas le nom de famille de Jésus. Christ, c'est un titre, ça veut dire le Messie, l'élu, le choisi de Dieu. C'est un titre. Si vous dites maman, maman, c'est un titre. Parce que maman, c'est pas quelqu'un, c'est pas un prénom. C'est la manière dont on désigne quelqu'un qui a un rôle, qui joue ce rôle dans ma vie. C'est un titre. Papa. Quand je dis à Camille mon épouse ou ma femme, c'est un titre. Et c'est un titre que j'ai plaisir à dire. Quand je dis mon neveu, oui mon neveu, ça peut être un titre, et en fait c'est un titre qui est chargé de sens, de relation, d'affection, de complicité, de... d'accord ? Et c'est un titre, quand mon neveu il vient me voir, que j'ai du plaisir à lui accorder. D'accord ? J'ai du plaisir à le dire. Ok ? Imaginez qu'un de vos proches concourt à la mairie de votre ville ou village, et vous êtes super encouragé, parce que vraiment, vous vous dites, si cette personne, elle devient mère, elle fera super boulot. Vous avez confiance en elle et vous croyez en elle. Et puis, Dieu voulant, cette personne gagne les élections et devient maire du village. Et tout ami qui l'est proche de vous, vous viendrez le voir, vous aurez envie de lui dire, Monsieur le maire, Madame la maire, voilà. Et de lui discerner ce titre, de lui décerner ce titre, pardon, avec joie, avec fierté. Vous voyez ce que je veux dire ? Se peut-il que quand vous dites Dieu, mon créateur, c'est un titre, ce mot soit chargé de joie, de reconnaissance, de légitimité. Oui, tu es le créateur. Tu es mon créateur. Et que quand vous le dites, ce titre, ça soit plein de là. De réfléchir à ça. Posez-vous dans un champ, dans une forêt, en haut d'une colline, regardez la nature. Regardez la diversité. Asseyez-vous dans l'herbe. Regardez la quantité de feuilles différentes qu'il y a, la diversité des insectes. Posez-vous quelque part et comptez toutes les couleurs que vous voyez. Posez-vous autre part et essayez d'identifier tous les bruits que vous entendez. Et ensuite, dites, tu es le créateur de tout ça. Tu es mon créateur. Comme l'avait dit Anne une fois, une discussion d'études bibliques en conseil d'anciens, toute la révélation de Dieu, il est invisible, ne peut nous venir que si Dieu se révèle. Mais je crois que si nous marchons à sa rencontre, il vient aussi à notre rencontre. Donc la première chose que je vous encourage à faire, c'est à remplir le titre. La deuxième chose que je vous encourage à faire, c'est à prendre soin de vous. Je suis la créature que Dieu a faite. Comment ça marche? Comment ça se fait que, par ma pensée, je peux contrôler ce corps comme ça? Alors là, pareil, on peut expliquer scientifiquement les choses, mais dans le fond, ça reste incroyable. Prendre soin de la créature que je suis pour honorer le Créateur qu'il est, même si ce corps a vieilli, ou peut-être surtout si ce corps a vieilli. Garder cette dignité, je suis la créature que Dieu a faite. Et à ce titre, je vais prendre soin de ce corps pour honorer mon Dieu. Je sais que dans certains pans du christianisme, le corps, c'est l'esprit qui compte. Je vous encouragerai à relire Romains 8. Le corps aussi ressuscitera dans la vie éternelle. Et troisième chose, et dernière, la prière. Prier, c'est peut-être une des choses, des actes que nous pouvons faire qui nous confronte le plus au fait que Dieu est créateur et tout autre. Quand je prie, soyons honnêtes, qu'est-ce qu'on fait concrètement? On parle dans le vide. On ne croit pas que ce soit vide. Mais concrètement, on parle dans le vide. Là, je vous parle et j'ai vos regards qui me disent que vous m'écoutez. Mais quand je prie, j'ai l'espérance, j'ai la foi que quelqu'un m'écoute. Quand je prie, je rentre dans une zone où je suis complètement dépendant. D'accord ? Là, je peux voir que vous m'écoutez. Quand je prie, comment je sais que Dieu m'écoute ? Là, je vois que la caméra, elle a une petite loupiote verte qui clignote, donc elle marche, elle enregistre. Quand je prie, comment je sais que Dieu m'écoute? Est-ce que j'ai un petit ploup, ding, ah. Dieu est en ligne de l'autre côté. Ah ouais, c'est bon, il est en ligne. Je peux lui parler. Ou je lui envoie une prière et puis, à un moment, ah, il y a une petite V verte qui apparaît pour savoir que la prière a bien été reçue et lue par Dieu. Non. Quand je prie, je suis dépendant. Je suis vulnérable. Je suis humble, humilié dans ce sens bon du terme. Je me rends à. J'espère que. Je crois que. Quand je prie, je contrôle quoi ? Je maîtrise quoi ? Je peux garantir quoi ? Je suis face au Créateur, souverain, impérial, qui fait ce qu'il veut, mais en qui je place ma confiance parce qu'il m'a dit « Tu es mon enfant ». Donc voilà ces trois facettes dans lesquelles je vous invite à retrouver, peut-être à cultiver le sens un Dieu créateur, en vous souvenant que nous n'avons pas à en avoir peur, et que même s'il possède toutes choses et que nous lui appartenons, que nous sommes dans le creux de sa main et qu'il peut faire ce qu'il veut de nous, il a aussi dit que tous ceux qui ont reçu le Christ sont devenus des enfants de Dieu. Et de la même manière que vous allez cultiver et arroser un potager où vous avez semé des graines, vous ne pouvez pas faire pousser les graines, mais vous pouvez l'arroser et vérifier qu'il n'y a pas trop de mauvaises herbes dedans. Et Dieu fera pousser les graines. Et de la même manière, vous aussi, si vous cherchez à vous approcher et à restaurer ce sentiment peut-être de « Ouais, j'oublie que tu es le Créateur, celui qui maintient le cosmos à l'existence. Je ne mesure pas ça, Seigneur. Et j'ai envie de retrouver ce sens-là dans ma vie, dans ma prière. » Eh bien, cultivez votre potager et Dieu se chargera de faire pousser les graines. Amen.